Dans ce nouvel épisode de Rencontre à l'aveugle, j'ai la chance de recevoir Fabienne Ostend. Elle est danseuse professionnelle depuis l'âge de 16 ans, fondatrice de l'association Danse les yeux fermés. Fabienne est devenue chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres. Elle est atteinte de rétinite pigmentaire qui altère progressivement la vue. Et malgré cette difficulté grandissante, elle transforme son handicap visuel en source d'inspiration pour elle-même et pour les autres à travers des ateliers de danse. Fabienne est aussi maman d'un garçon de 19 ans et en 2024, année des Jeux Olympiques, Fabienne portera la flamme à travers la ville de Saint-Maur-des-Fossés. Son parcours exceptionnel vient compléter les épisodes de mon podcast qui donne la parole aux femmes déficientes visuelles. Durant cette rencontre, nous aborderons son parcours professionnel et sa vie de femme. Je partagerai avec vous tous les liens cités dans cette conversation. N'hésitez pas à partager cet épisode. Vous pouvez l'écouter sur toutes les plateformes d'écoute et vous y abonner. La musique du podcast Rencontre à l'aveugle est de Stéphane Tsapis. Bonjour Fabienne.
Bonjour Léa.
Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton handicap? Déjà, est-ce que tu le considères comme un handicap ou pas?
Je suis atteinte de rétinite pigmentaire. La rétinite pigmentaire, c'est les cellules de la rétine qui meurent, qu'on voit dans un tube, puisqu'en fait, le champ central n'évolue pas trop dans cette maladie et à la fin, on perd le tout. Il y a une petite différence, et ça parle à tout le monde, la maladie de la macula, celle des personnes âgées. Cette maladie, elle est l'inverse de la rétine, donc c'est le champ central qui est grignoté et les gens voient autour. S'ils regardent un visage, ils ne voient pas le visage, ils voient les contours. Et moi, à l'inverse, donc là, dans mon restant visuel, par exemple, quand je te regarde, j'arrive à cerner ton œil, je puzzle. Je ne me fie pas à l'image, mais plutôt à mon ressenti, le sixième sens. Et non, ce n'est pas un handicap. J'appellerais ça plutôt une particularité, une amie. La maladie, souvent, on aime bien l'isoler, mais on est obligé de toute sa vie cohabiter avec sa maladie. Donc le mieux, c'est d'en faire une amie, comme dans la vraie vie. Hein, les amis, c'est sympa, des fois c'est un peu embêtant, un peu... Voilà, et ben là, je la gère exactement pareil. Et c'est important pour moi de la visionner comme ça.
À partir de quel moment tu t'es aperçue de cette particularité?
En fait, je pensais que les gens voyaient comme moi. C'est à l'âge de 12-13 ans, parce que j'ai été voir l'ophtalmo, tout simplement, et que ma maladie, en fait, elle était visible depuis très longtemps, mais il n'y avait pas de nom. Ils n'avaient pas trouvé de nom à cette maladie. Ce qui m'a valu toute ma scolarité, ma primaire, a été la primaire de l'échec, dans le sens où j'ai redoublé le CP, CE1, CE2. Bon, à la fin, ils n'en pouvaient plus, donc ils ne me faisaient plus redoubler. Il y avait cette impression où je pensais que j'étais bête. Et de toute façon, les adultes me le disaient. Quand on m'a annoncé que j'étais malvoyante, à l'époque, c'était « non, tu vas devenir aveugle, t'es aveugle ». Bon, il y a quand même un grand écart entre les deux. À ce moment-là, je me suis dit « génial, en fait, je ne suis pas bête, je suis malvoyante ». Et ça change beaucoup de choses.
Ça change tout, j'imagine.
Tout.
Au niveau de toi, ton quotidien, est-ce que du coup tu as repris confiance en toi? Est-ce que tu t'es découvert quelque chose qui a changé ta vie?
Ce qui est bien, quand on est enfant, on est dans l'innocence. Ce qui est génial, c'est qu'on ne comprend pas le monde. Enfin, moi, pour ma part, je ne comprenais pas dans le monde dans lequel on vivait. Parce qu'il se passait plein de choses. J'étais très dégourdie, mais en fait, on me stoppait. Non, dans la tête d'un enfant, le handicap, ce n'est pas celui des adultes. La perception d'un enfant face à son handicap, en fait, il n'y en a pas. Moi, jusqu'à ce qu'on me dise, et même après, j'ai toujours vécu en me disant « les gens voient comme moi ». Donc, c'est à moi de m'adapter. Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est que je passe ma vie à être en adaptation. Et tant mieux, parce que ça m'a permis, après, au niveau artistique, ça m'a beaucoup aidé d'avoir vécu ces premières années de vie, enfin de vie scolaire, de trouver un moyen d'adaptation. J'ai trouvé ça hyper intéressant. En fait, tout ce qui m'est arrivé n'est pas un malheur, et juste enrichissant, m'enrichit et permet de mieux comprendre mon monde à moi.
Comment ton entourage était et se comportait avec toi au début, avant qu'on découvre ta maladie?
Les gens, tout à fait normalement. C'est ça qui est assez drôle dans le handicap. Tant qu'on ne vous annonce pas la maladie, les gens vous perçoivent, mais alors normalement. Le jour où vous leur mettez un nom et vous dites que vous avez tel ou tel handicap, d'un coup, là ça y est, vous êtes une personne handicapée.
On colle l'étiquette, ça y est.
Oui, mais c'est assez rapide. Pourtant, l'annonce a été faite il y a une minute. Et bien, la minute qui suit, ça y est, on est une personne ultra handicapée. Et en fait...
Vous voulez dire que le changement des autres, vous l'avez senti tout de suite ?
Oui, alors moi, franchement, le changement des autres, bien à vous, mais pas pour moi. En fait, c'est juste un constat. Et même dans ma vie aujourd'hui, les gens ils se posent la question. Mais elle voit pas, c'est comment ? Alors à chaque fois, je suis obligée d'expliquer. Enfin, j'explique pas, je dis, bah, ça tombe bien, en fait, je suis malvoyante. Je ne suis pas aveugle, mais je ne suis pas voyante. Et on est dans des sociétés, et même c'est naturel, c'est humain, c'est de se dire, mais c'est quoi en fait le handicap ? C'est quoi qui ne va pas ? Et en fait, c'est pas que ça ne va pas. Le mot handicap, ça veut dire ne pas pouvoir faire. Et on décide de... Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Moi, il n'y a rien que je ne peux pas faire. Si vraiment je suis en difficulté, je pose la question ou alors je prends la personne avec moi afin de comprendre comment elle fait. Faire à la place de l'autre, c'est pas aider, c'est le rendre handicapé. Donc ce qui est hyper important, c'est de se dire, ok, je prends quelque chose de très simple, une jambe cassée. Tout le monde est catastrophé, tout le monde se dit, oh mon Dieu, elle a la jambe cassée, mais comment il va faire ? Mais il va faire, il n'a pas le choix. Au début, il y a une telle compassion que bah, il va se laisser porter. Mais après, et ça c'est humain, c'est au début je veux bien t'aider, mais après tu te débrouilles. Après c'est fatigant, j'ai pas envie de t'aider. Et c'est là qu'on fragilise la personne. C'est d'avoir anticipé pour lui et que du jour au lendemain, on ne veut plus anticiper, on ne veut plus être avec cette personne, on lui dit débrouille-toi. Mais ouais, mais en fait, vous ne l'avez pas aidé.
Ah oui, parce que dès le départ, en fait, il aurait fallu rendre cette personne autonome.
Et mais oui. C'est ça qui rend handicapé. C'est qu'est-ce que je perce, qu'est-ce que l'autre me renvoie. L'autre et son handicap, ça me renvoie à quoi ? Ça me renvoie à moi. Et si moi, je ne voyais pas, et si moi, j'avais une jambe cassée, comment je ferais ? Alors tout de suite, ah ben non, je pourrais pas. Qui a dit ça ? Et donc, j'ai grandi comme ça. Justement, les gens, ils se posaient des questions. Ils disaient, mais non, elle voit. Parce qu'en plus, même là, mon regard est complètement normal. En fait, on arrive à voir, mais il faut me connaître pour savoir. Mais, et puis en plus, quand l'œil droit il est devenu aveugle, il partait un peu dire bonjour sur le côté. Moi, ça, je ne veux pas. Donc, je me suis remusclé l'œil. Alors, c'est marrant de remuscler un œil qui ne voit pas. Mais alors, l'imaginaire
oui, mais le muscle est
là, puissant.
De toute façon.
Ah oui, mais il faut, jouer avec son imaginaire, hein, parce que sinon, l'œil ne bougera pas. Hein. On est clair là-dessus. Donc voilà, donc moi, j'ai grandi en tant que caméléon. J'aime bien dire cet animal-là, parce qu'en fait, il change à chaque univers où il peut être. Et en fait, moi, j'ai grandi comme ça. Et même moi, quand on m'a dit que j'étais malvoyante, j'y ai pas cru. Je suis métissée, je ne suis pas aveugle. Je ne suis pas voyante, je suis cette métisse et je ne sais pas où je dois aller. Mmh. En fait, je dois aller nulle part, je dois juste être qui je suis.
C'est beau. Est-ce que vos parents ont joué un rôle fort ? Est-ce qu'ils vous ont poussé à faire des choses, des activités particulières ? Parce qu'on va venir au sujet qui nous intéresse aussi, c'est la danse. Comment vous êtes arrivée à faire des activités avec votre vue du coup, je n'ai plus envie de dire handicap, en fait. Cette vue...
Il faut l'utiliser, hein, c'est pas grave.
Oui, mais particulière non plus, c'est une vue bien à vous.
Voilà, mon monde. Quand j'étais petite, j'ai pas eu l'enfance rêvée. Mm-hmm. Je n'ai pas connu mon père. Avec ma mère, bah, ça n'a pas été une enfance comme on peut l'appeler. Donc j'ai grandi très rapidement dans un univers adulte. Donc moi, quand j'avais 6 ans, je pensais que j'en avais 25 et je ne comprenais pas pourquoi j'allais à l'école, je ne comprenais pas ce monde où on me demande de faire des choses à laquelle je sais déjà aller faire. Si j'avais grandi là, dans ces années 2023-24, on m'aurait dit que j'étais une enfant précoce. Après, donc j'ai pas été soutenue,
d'accord.
Pas du tout. Au contraire, ma mère n'y croyait pas, ne pensait pas du tout. En fait, quand on me voyait, vu le nombre de bêtises que je faisais, tout ce que je faisais de libre, mais ça, c'est la force du caméléon. Une fois qu'il est adapté, en fait, la vie, et c'est ce que j'apprends dans mes ateliers, c'est une fois qu'on a négocié avec notre cerveau, le corps suit. Donc ça veut dire, j'enlève les peurs. J'aime bien dire, je suis naïve. Naïve parce qu'en fait... je prends que ce qui est là, ici et maintenant, et je ne cherche pas à philosopher, à me dire « oui, mais comment je vais pouvoir faire ?» En fait, je suis dans l'action.
Vous êtes une doueuse, comme voilà. On dit. Vous faites les choses. Just voilà. Do it.
Voilà. Et ça, depuis toujours. Donc, petite, honnêtement, je n'allais pas m'interdire de jouer avec mes amis parce que je ne voyais pas. Je prenais des poteaux, mais c'était presque ma signature. Donc, moi, ça ne me dérangeait pas parce qu'au fur et à mesure que je prenais des poteaux, je les prenais avec intelligence. Donc, je me faisais pas mal.
Comment arrive la danse dans votre vie ?
Alors, ce qui est génial, c'est quand on vous donne un interdit dans votre vie, ben c'est ça que vous voulez faire. Moi, je dis toujours, je suis née en dansant, je meurs en dansant. Je suis sûre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, par rapport à l'enfance que j'ai vécue, la danse a été primordiale pour moi. Je pense que si j'avais pas dansé, ben, je serais pas là. J'aurais une autre vie. Et la danse, en fait, elle m'a permis toutes ces choses qui étaient difficiles à vivre, de les avoir dans mon corps et de les extérioriser. Mais sans haine, sans tout ça. Moi, je suis toujours hyper souriante. Enfant, quand je disais que ça allait pas, les gens ils se disaient « Mais non, c'est pas possible, regarde comment tu es rayonnante. » Non. Il faut faire attention aux enfants qui sourient et qui ont l'air heureux. Des fois, il faut quand même aller leur poser des questions. Parce que j'étais abusivement heureuse. Je ne sais pas si on peut le dire, mais j'étais ultra joyeuse. Parce que je m'amusais à créer plusieurs mondes dans ma tête.
Oui,
un monde du jour et un monde de la nuit. Qui veut dire, le jour, c'est comme mes rêves, qu'ils soient bons, qu'ils soient pas bons, c'est un rêve. La nuit est ma vie. Et mes rêves, en fait, quand je dormais, sûrement je rêvais de choses plus douces, et donc ça, c'était ma vie. On a tous ces armes-là. Des fois, pour se protéger, pour avancer dans la vie, on se crée un double monde pour accepter ce qui se passe. C'est l'acceptation, c'est tout. C'est la résilience. On m'a interdit de danser, c'est super, je vais danser. Donc je faisais danser mon chien, j'allais en centre de loisirs, je faisais danser les autres, je faisais des chorégraphies, et à l'époque c'était Madonna, Who's That Girl. Et donc j'avais fait un spectacle avec un maillot de bain noir et fluorescent avec des chaussons de danse. Et j'adorais me produire, en fait je trouvais ça super rigolo. En fait, je prends la vie avec sourire.
Quoi, il y a quelqu'un qui vous a vu danser ? Pour vous proposer des cours de danse ou...
Non. Ah là là, j'ai pris
Est-ce
mes
cours. Est-ce qu'il y a une personne ? Est-ce qu'il y a eu un déclic, une rencontre ?
Non. Alors, ce qui a été très drôle, c'est que je suis partie de chez moi très tôt. Je devais avoir 15 ans, 15, 16 ans. Moi, j'ai toujours... si j'avais bien vu, j'aurais été styliste. J'adore la mode, j'aime tout ce qui est de l'ordre de la création. C'est mon dada. J'adore ça. J'aime pas être dans la norme. Une dame m'a dit un jour... Vous êtes philosophe. J'ai fait, c'est génial, je vous remercie, je prends. Philosophe, moi, non, pas encore. Peut-être pas dans cette vie. Enfin, là-dessus, je ne suis pas très sûre. Mais voilà, c'est vraiment, pour moi, c'est vivre ma vie pleinement. Je sais à quelle heure je suis arrivée sur cette terre, je ne sais pas quand est-ce que je repars. Mais entre ces temps-là, je veux absolument vivre ma vie. Mais la croquer et dire, si jamais il me reste une minute et que je prenne conscience que je vais partir faire, je me suis éclatée sur cette terre et partir. Et donc, pour moi, c'est très important, vraiment très, très important. La vie, on n'a jamais dit qu'elle était simple, qu'elle était parsemée de bonheur. Non, ce qui nous fait être vivants et être des êtres humains, c'est tous ces aléas, les moments de bonheur, les moments de tristesse. Et ce n'est pas des moments de tristesse, c'est des moments de remise en question. C'est des moments pour nous dire, ok, là, qu'est-ce qu'on fait ? Tu n'as pas le choix, tu es sur Terre, qu'est-ce que tu fais ? Eh bien, tu avances, mais on a le droit aussi de ne pas avancer. Et en fait, c'est vraiment s'autoriser à choisir, nous. Et pas accuser les autres. « Ouais, mais ma vie, elle est dure à cause de toi. » Non. Tu es maître, tu as les cartes dans les mains.
Donc vous avez décidé de danser votre vie.
Et je danse ma vie. Et je danse ma vie, j'ai tellement compris que c'était puissant et que ça pouvait énormément m'aider que je fais danser les autres.
Alors racontez-nous. Donc, comment vous êtes devenue professeure de danse ?
Alors, juste avant, en fait, à 16 ans, j'ai fait un casting. Pour le Folies Pigalle à l'époque, donc on est dans les années 90, c'était les soirées drag queen, les premières drag queen, les soirées, on va en boîte de nuit et puis il y a des filles qui dansent, on ne se déshabillait pas. A priori, les danseuses, les gogo danseuses, elles ont bien changé. Non, on ne se déshabillait pas, on n'avait pas besoin. On devait juste danser et moi, ma passion, c'était la danse. On me l'a interdit, donc là, on me donne un moyen d'expression, je ne vais pas me gêner. Donc, j'ai passé mon premier casting pour le Folies Pigalle. Assez drôle, j'ai été prise.
Quel âge vous aviez à ce
moment-là ? Là, je devais avoir 17, 18. Et moi, j'ai adoré parce que je n'ai pas pu prendre de cours de danse. Donc, pour moi, c'était « trouve le moyen pour pouvoir faire ce que tu aimes ». Et en fait, ce qui était drôle, c'est que quand je dansais au Folies Pigalle, on avait des cubes et je tombais tout le temps puisque je ne les voyais pas. En fait, je ne voyais pas les délimitations. Et en fait, c'était devenu une réputation. On se disait, mais attends, on voit Fabienne, c'est bon, elle tombe, mais elle tombe de manière artistique. Parce qu'en fait, je ne me suis jamais fait mal, par contre. Donc ça, c'était... Et voilà, et j'avais confiance en moi, donc je faisais ce que j'avais à faire. Et dans les années 90, ben, un plan emmène un autre plan. Si on est bien, si on est carré, ben, on peut travailler avec plein de gens. Donc en fait, je me suis mise à travailler avec plein de gens, plein d'artistes. Et un jour, je me suis retrouvée chanteuse. Donc à l'époque, en 96, je me retrouve à chanter Disco Blue. Donc c'est un titre qui a beaucoup marché. Il a été classé dans le top 10 sur les ondes. On l'entendait partout. J'ai pas mal tourné avec. C'était vraiment des chouettes années. C'était une autre casquette. C'était assez rigolo. Mais quand même, pour moi, la danse, c'est quelque chose qui m'animait plus que chanter. Donc j'ai fait ça et puis je suis revenue à mes amours, la danse, youp. Et ma vue a diminué, j'ai rencontré mon mari. Et donc lui, il était plutôt dans la musique. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis intéressée parce que c'était artistique, donc moi ça m'intéresse. Donc j'ai beaucoup appris, c'est pas mal aussi, je suis restée assise sans bouger, juste
à écouter,
à imaginer. Et ça a été très important en fait par rapport à mon handicap. Quand mon mari m'a rencontrée, je n'avais pas encore la canne blanche, la maladie évoluait. J'avais très bien accepté, mais il y a des phases où...
Il y a des paliers, peut-être.
Voilà, qui vont très, 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 très vite. Et donc, je ne sais pas, c'est arrivé. Ma vie, de toute façon, arrive toujours au bon moment. Les choses arrivent toujours au bon moment.
Comment il a réagi, votre mari ? Il s'est retrouvé face à une danseuse.
Elle n'a pas cru.
Une femme exceptionnelle. Comment on réagit ? On se sent... Il a dû être à la hauteur, non ? Enfin,
ah non, mais il n'y a pas cru.
Impressionné.
Quand j'ai dit que j'étais malvoyante, il a dit oui, bien sûr. Et en fait, c'est au fur et à mesure. Et puis même à l'époque, personne ne voulait y croire. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un qui me dit « si, vous devez me croire parce que c'est comme ça ». Moi, en fait, je ne me crois pas, ce n'est pas grave. Moi, je sais. Moi, je sais.
Oui, vous savez où vous en êtes.
Ou alors, je suis une super bonne simulatrice qui depuis le départ, berne tout le monde. Est-ce que c'est vraiment ça ? Je ne suis pas sûre. Mais moi, il est hors de question dans mon fonctionnement de passer à la justification. Je ne suis pas là pour me justifier. Je sais mon état. À partir de là, moi, je vis avec ma copine rétinite pigmentaire. C'est pas pour aussi la prêter aux autres, en fait. Pour moi, c'est hyper important d'être digne, en fait. À chaque fois, il y a vraiment ce côté, tu me crois pas, c'est pas grave. Quand j'ai fait du sport, étant jeune, j'ai fait du basket. Bon, personne, à part mon entraîneur qui, lui, il avait bien compris qu'il se passait quelque chose. Mais en fait, j'étais douée pour rattraper les balles. Donc, en fait, les autres équipes, quand les autres me voyaient, ils devenaient fous. Ils disaient, mais pourquoi elle est encore là ? Mais pourquoi elle n'est pas assise ? Mais parce que j'étais un bulldog, je courais après tout ce qui volait. Mais je ne percevais pas les gens qui allaient aussi courir derrière une balle. Donc, moi, j'allais vraiment chercher la balle. Et donc, c'était mon atout.
En fait, il fallait faire quelque chose avec votre corps. Dans tout ce que vous nous dites depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que votre corps est très actif et que vous avez besoin de bouger.
Oui, et puis ne pas...
Vous arrêter à quelque chose.
Voilà, mais c'est surtout... C'est trouver des solutions de ce handicap.
D'accord.
C'est à un moment donné, ok, on a bien compris, je ne vois pas bien. Mais qu'est-ce que je ne peux pas faire ? C'est moi qui vais décider de ce que je peux et ce que je ne peux pas faire. En fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'on met des normes. Bon, t'es malvoyant.
Et puis on décide pour
voilà.
Vous.
Voilà, t'es malvoyant. Alors moi, les gens qui me connaissent, ils savent très bien que jamais on a décidé. Non, on n'a jamais décidé pour moi. Mais quand on regarde d'un point de vue plus large sur la société, pour la société, une personne malvoyante, déjà elle est aveugle. Donc merci pour celui qui reste, à qui il reste un petit peu de vue. Et souvent je dis, il est plus dur d'être malvoyante que d'être aveugle. Aveugle, on va s'habituer, il y a un code.
Bah c'est clair, vous êtes aveugle, vous ne voyez pas.
Vous allez vous habituer parce que...
Malvoyante,
voyant
mystérieux.
Et aveugle, c'est deux mondes différents. Ça ne parle pas du tout le même langage. Par contre, une personne qui est malvoyante, si elle fait l'acceptation de son handicap, elle va l'accepter, son corps va lui donner tout, elle va la nourrir comme si qu'elle était aveugle. Mais le petit plus, c'est que nous... On n'oublie pas qu'un jour on a vu. En fait, ce qui est dur pour quelqu'un qui est malvoyant, c'est de dire à la société, je suis malvoyant, il y a des choses que je peux faire. Et la société, elle ne veut pas. Elle veut pas que tu fasses parce que sinon je te crois pas.
Mais c'est surtout que la société devrait s'adapter. Est-ce que la société peut s'adapter? Je suis pas sûre.
Alors,
à ce niveau-là, je suis pas sûre.
Alors,
c'est plus facile de s'adapter en effet à quelqu'un qui ne voit pas du tout que quelqu'un qui est malvoyant.
Alors pour ça, j'invite, et c'est moi, c'est comme si je faisais une thèse sur ma vie par rapport à ma malvoyance. Ma thèse est: est-ce qu'à un moment donné, les gens doivent s'adapter à nous ou nous être des caméléons? Et en étant caméléon, ça veut dire qu'on peut dire à la personne en face de nous: ça, je ne peux pas faire. La personne ne peut pas se mettre à notre place. Il faut que nous, porteurs de handicap, on puisse dire: ça, je peux faire, ça, je ne peux pas le faire. Si à chaque fois on est muet, comment la personne en face de nous peut nous aider si elle ne sait déjà pas comment faire? Donc c'est à nous, on a notre handicap, mais c'est à nous de dire: ça, non, ça, oui. Au lieu de me prendre la main et m'emmener sans que je sache où je vais, attends que moi je te demande et c'est de se prendre en main. Et se prendre en main, c'est d'être à côté de quelqu'un. Je vais donner une image. Elle est très simple, l'image. Quand on a un enfant et qu'il passe à l'étape, il va marcher. Il y a les mamans qui vont tenir leurs enfants jusqu'à plus en pouvoir. Et quand elles en auront pu, quand elles voudront plus les tenir, parce qu'elles ont, et on parle de, en fait, c'est la peur de la maman. Savoir, mon Dieu, mon enfant, il va marcher, il est en train d'apprendre à marcher, il va tomber, il va se froisser. Il y a les mamans qui apprend à marcher, va, je serai là. Dans le handicap, c'est la même chose. Laissez faire, attendez qu'on vous demande, ne faites pas à la place, et là vous ferez des personnes handicapées beaucoup plus fortes. Mais attention, ça ne veut pas dire t'es handicapé, tu fais comme les autres. C'est la petite subtilité. À trop croire que son enfant est Superman, eh ben l'enfant il n'en peut plus. Il a besoin qu'on le nourrisse, qu'on l'aide. Mais en même temps, à trop le couver, eh ben, c'est les extrêmes qui ne sont pas bonnes. Et ça, il faut l'entendre. Puis c'est important vis-à-vis de ceux qui nous entourent. Par exemple, j'ai eu un enfant. Jamais j'aurais fait un enfant si je n'étais pas OK avec mon handicap.
Alors justement, nous voilà dans le sujet que les mamans adorent en écoutant ce podcast. Est-ce que vous avez toujours eu ce désir d'être maman, même en ayant votre vue à vous? Ou est-ce qu'on a essayé de vous dissuader de devenir mère? Avec le caractère que vous avez, j'ai l'impression que la réponse va être
voilà,
très claire.
Hein, tout le monde connaît ma réponse. Voilà. Je me suis toujours laissée guider quand même par ma propre vie. Il y a eu une étape pour tout. Moi, je voulais être danseuse. J'ai dansé partout. J'ai fait énormément de choses. J'ai vraiment vécu ma vie de danseuse. J'ai adoré ce passage-là. Et puis, je pense que mon corps, à un moment donné, il m'a dit « ce serait bien que tu aies un enfant ». Mais entre vouloir et pouvoir, c'est deux mondes différents. Ce qui a été très, très important, je me suis dit, un, il me faut le mari, et deux, ok, on fait un enfant. Mais la nature, elle a dit, Fabienne, t'auras pas d'enfant. Et là, j'ai fait, comment ça, j'aurais pas d'enfant? Et là, eh ben, on bataille avec la nature, et on finit par avoir un beau petit bout, en pleine forme.
Qui a maintenant 19 ans.
Et en fait, si je n'avais pas senti au fond de moi, et je n'aurais pas géré mon handicap, je n'aurais pas fait d'enfant. J'en suis sûre et certaine. On ne peut pas faire un enfant et après faire payer à son enfant son handicap. Jamais. Pareil, avoir un mari et lui expliquer « Oui, mais toi, tu vois, il faut que tu m'aides à sortir. » Non, c'est pas vivre ça. C'est enfermer les autres dans son malheur. On ne peut pas. Donc ce qui est important, et moi pour moi c'était vraiment primordial, je ne fais un enfant que si, après la nature a dit « Non, tu n'en auras pas. » Donc j'ai fait si. Mais après, quand j'ai voulu
faire... C'est un peu comme la danse. On vous a empêché de faire de la danse. Enfin, on vous a pas empêché, on vous a dit non, tu peux pas danser.
Non, on m'a dit tu feras pas de danse, pas par rapport à mon handicap. Tu danses pas, point la ligne. Et là, on dit oui. Là, la nature, elle me dit t'auras pas d'enfant. Je lui fais oui, bien sûr, on va quand même essayer. J'ai un enfant. On a voulu faire le deuxième. Mon corps, il a dit toi, tu n'as pas compris la première version. On va te la bien expliquer. Et là, j'ai fait ok, je ferai pas de deuxième enfant. Mais là, à ce moment-là, je me suis dit si j'ai pas de deuxième enfant, qu'est-ce qui me passionne dans la vie? La danse, ok. Alors, je vais créer une association.
Voilà. Alors, comment s'appelle cette association?
L'association s'appelle Danse les yeux fermés.
Elle existe depuis combien de temps à peu près ?
2012, et en fait, je l'ai fait égoïstement. Alors, quand je dis ça, c'est que... Alors déjà...
Pour l'amour de la danse, pas...
Non, je vraiment ? Oui, parce que en fait, je dansais professionnellement, avec ses aléas, mais je l'ai fait, et j'ai vécu de chouettes moments. Je ne voulais pas spécialement créer une association au départ. Je me suis dit, je vais aller prendre des cours. J'ai remarqué qu'il y avait un... mais pourquoi vous êtes là ? Les gens qui ne voient pas, ils ne veulent pas danser. Ou sinon, on va les faire danser. Et moi, je suis rebelle. Savoir que j'allais me faire guider, jamais de la vie. Hors de question. Je me disais, mais pourquoi il y a des gens qui arrivent à danser solo et moi, je vais me tartiner quelqu'un qui va m'expliquer en œuvre caritative. Attends, on va t'aider. Non, je fais exprès d'être un super cliché. Mais c'était vraiment le ressenti que j'avais. Dans la vie, il faut faire des choses pour soi pour pouvoir nourrir les autres. Toujours. Je dansais et ensuite j'ai arrêté. Quand j'ai eu mon fils, j'ai voulu reprendre la danse. Mais le souci, c'est que les gens ont eu peur. On n'était pas habitués. Souvent, danse et la vue... Ça colle pas. Et puis alors moi, en mode rebelle, hors de question de danser à deux. Hein, les danses de salon, c'est très peu pour moi, merci. Alors, je dis pas que c'est pas bien, mais c'est pas ça que je veux. Je veux pouvoir danser librement, expérimenter toute seule, sans l'accompagnement. Moi, dès qu'il y a un champ de on retire mon autonomie, ça ne va pas. J'ai toujours besoin de me sentir libre. En 2012, quand j'ai créé l'association, c'était égoïstement. Parce que le fait d'être malvoyante et d'avoir peur du noir, c'était un peu compliqué. Mmh. Donc en fait, je me suis dit, si demain je deviens aveugle, autant le devenir accompagné. Donc j'ai créé les ateliers avec l'idée, c'était je mets le bandeau aux gens qui participeront aux ateliers, mais moi aussi, de le fait de montrer, de tout ça. Et en fait, ça a pris tout de suite. Et ce qui a été génial dans cette belle histoire, c'est que la mairie où j'habite à Saint-Maur,
Saint-Maur-des-Fossés.
Ils m'ont suivi tout de suite. Madame Cerclet, qui à l'époque s'occupait de tout ce qui était l'animation, la vie associative, elle m'a dit, Fabienne, je te suis. Et vraiment, on a commencé, on était, 10 personnes, 10, 16 personnes, et ça a augmenté. Au début, je le faisais qu'aux adultes, puis après, je me suis dit, autant le faire aussi aux jeunes. Et aujourd'hui, je fais aux parents-enfants. Donc, je fais des ateliers parents-enfants. Les petits avec les nouveaux parents. Et je trouve ça tellement génial. Il y a des enfants, il y a des ados. En fait, il y a toutes les tranches de vie. Et l'idée, c'est comme créer un lien de la petite enfance jusqu'à... Parce que dans l'atelier, j'ai des petites dames qui ont plus de 70 ans, même 80 bientôt. Et l'idée, c'est... C'est cette union, c'est cette micro-société qui est, lorsqu'il y a un spectacle, il y a de la jeunesse jusqu'à la vieillesse, mais on ne les voit pas trop parce qu'ils dansent tous avec un bandeau. Et voilà, c'est ça qui m'anime.
Est-ce qu'on peut dire que c'est un atelier intergénérationnel ?
Oui, c'est un peu comme ça que je le visionne parce qu'à l'intérieur des ateliers, bien sûr, il y a l'atelier parents-enfants, donc je souhaite à ce qui reste tout seul parent-enfant, dans le sens où ce qui m'intéresse, c'est que l'enfant va grandir dans les yeux de ses parents et les parents vont grandir en tant que parents dans les yeux de leurs enfants.
C'est merveilleux.
On est vraiment dans cet échange. Ensuite, tout ce qui va être atelier ado. Des fois, les profs de danse, ils n'ont pas envie d'avoir les ados, parce que entre leur crise existentielle, mais ça fait partie de la vie, et les ateliers d'enfants. Donc ça, je les garde vraiment dans leur... Enfin, je mets des adultes dans leur cours. J'ai remarqué que des fois, ça stimulait. Par exemple, une ado qui va aller dans un cours d'enfant, l'enfant, elle va regarder l'ado avec des grands yeux en cœur. Et pareil, les ados, je vais leur demander d'aller chez les adultes. Parce que là, pour le coup, l'adulte est inspiré par l'ado et l'ado trouve la sagesse.
C'est
et
un ça, cercle c'est... vertueux, en fait.
Et je m'amuse l'autre. De ça. Donc, à Saint-Maur, je donne les cours. En dehors de Saint-Maur, je donne des cours un peu partout. Là, la semaine dernière, j'étais à La Réunion, sur Saint-Denis, pour la semaine des droits des femmes. J'ai animé des ateliers, et là, c'était rigolo. J'ai eu des 60 personnes, des 40, des 90 personnes. Et l'idée, c'était vraiment cet échange. C'est marrant comme un bandeau. Pourtant, je parle d'aveuglement. Mettre un bandeau, c'est devenir aveugle. Oui et non. Parce qu'en fait, le bandeau, il parle de nous. Quand on ne voit plus... c'est surtout quand on a quelque chose devant les yeux, ça nous ramène à nous, intérieurement, toute notre vie. Alors quand je dis ça, c'est les choses qu'on s'est interdites de faire, parce que la famille, le rapport au corps. La danse, dans toutes les familles, c'est pas quelque chose d'acceptable. Je fais aussi des ateliers en centre éducation fermée. Mmh. Donc, c'est des jeunes qui sont à un moment de leur vie en mode rébellion. Et quand je leur fais des ateliers, ce qui est assez drôle, c'est « je ne sais pas danser ». Donc, chaque fois, je leur dis « mais c'est quoi votre représentation de la danse ?» Parce que, en fait, si vous êtes sur Terre, vous dansez déjà.
Très souvent, mais ils n'ont pas cette vision-là. Mais ils ne pensent pas à ça.
Ah ben oui, mais il faudrait peut-être l'avoir. Souvent, on dit « je n'ai pas la coordination ». Si tu n'avais pas la coordination, tu ne serais pas en train de marcher. Parce que marcher et en même temps, là j'applaudis tous ceux qui marchent et qui en même temps suivent une série sur leur portable. Waouh, franchement, c'est génial, ça, c'est la coordination. Mmh. Ils arrivent à esquiver, enfin voilà. C'est à un moment donné, le mot danser, en fait, on cède ce mot-là à ceux qui vont danser dans la technique, à ceux qui vont prendre des cours et qui vont devenir danseurs professionnels. Mais avant ça, il y a les gens non danseurs et pourtant qui dansent
parce qu'il y a du mouvement. Il y a du mouvement dans le corps, oui. Bien sûr. Oui.
Un être humain, c'est une boule de mouvement. On est tout le temps en mouvement. Même quand on dort, on est en mouvement. On est tout le temps et le jour où on n'est plus en mouvement, c'est qu'on n'est plus là. Et ça, en fait, c'est juste prendre déjà ça pour se rendre compte à quel point notre vie est importante.
Il me semble important de signaler ce que vous m'avez raconté hors enregistrement. Là, vous parlez du mouvement. C'était vraiment hors enregistrement. Vous avez dit que vous aviez pensé à porter la flamme pour les Jeux Olympiques. Vous avez éteint votre télé et puis vous êtes passé à autre chose. Donc là, il n'y avait pas de mouvement, il y avait une pensée. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi de cette manière de penser à des choses qui vont vous mettre en mouvement ? Parce que là, vous avez pensé à quelque chose sans être sûr que ça allait arriver. Bah, si vous pouvez nous raconter la suite, s'il vous plaît.
En fait, ce qui est marrant, c'est que dans ma vie, il se passe toujours des choses où j'en suis, moi, la première étonnée. Mon dernier étonnement, c'est de l'année dernière, l'été dernier, je suis en vacances, j'allume ma télé, on est en train de parler des JO, et moi, je me dis, ah ben, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ? Donc, comme je danse, je me dis, ah, peut-être que je vais danser. Et je m'amuse à me dire, et si je portais la flamme ? Et là, je me dis, non, le pari, il est un peu trop grand. Donc, j'éteins ma télé. Et puis, quelques jours plus tard, on me dit, Madame Ostend, essayez de garder votre 21 juillet. Et là, je me dis, mais pourquoi ? Donc, après, je comprends qu'il y a les JO, mais je ne pars pas gagnante de cette histoire. Et je ris parce que je me dis, j'ai annoncé quelque chose et l'impalpable était en train de m'écouter, il me disait « Toi, tu veux porter la flamme ? Allez, tu la portes. » Et en janvier, on me dit que je porte la flamme et que je représente la ville de Saint-Maur. Mais qui l'eût cru ? Et je trouve ça très drôle.
C'est une belle projection, non ?
Oui, et parce que quand on me le dit, j'ai pas l'impression que... Alors, j'aime ma naïveté, mais je pense que quand la mairie... Parce que c'est comme ça que ça se...
Voilà, comment ça s'est passé ?
C'est la mairie qui propose un dossier... Et qui, voilà, ils m'ont proposé, mais ce n'est pas eux les décisionnaires. Ensuite, il y a une commission, et c'est le comité des JO qui décide de qui va porter la flamme. Et là, franchement, on est sur les fesses. Déjà, même si je ne l'avais pas eu, j'aurais été super contente par rapport à la mairie qui a proposé ma candidature. Donc rien que ça, c'était bingo, je gagnais. Enfin, j'étais contente déjà.
Cerise sur le gâteau.
Et puis alors, la petite cerise avec le petit coulis. Allez hop, tu portes la flamme.
Et ça, comment on vous l'annonce ? On vous appelle, on vous dit quoi ?
Non, on ne nous appelle pas, on reçoit un mail. Et c'était très drôle parce que j'étais en train de donner un cours et je reçois le mail et je fais « lisez-le pour moi » et là on m'annonce que je vais porter la flamme. Et là, je fais « bon, bah, c'est bon, c'est un lundi ». Ma semaine est faite, là. Là, je suis aux anges. Pour la flamme, ça s'est passé comme ça. Mais quand j'ai été nommée chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres, c'est pareil. En fait, c'était en pleine période de Covid. Là où je donne mes ateliers, il y avait une dame qui me dit « Fabienne, vous avez reçu du courrier. » Une espèce de grande enveloppe. Et je me dis « bon, c'est de la publicité. » Et ce qui était très drôle, c'est le jour où je ne voulais plus travailler dans une compagnie. J'étais là « bon, je clôture avec toi, c'est bon, on... » Moi, j'avance, c'est bon. Et j'ai ce papier-là dans la main et je me dis, je suis sûre que c'est une publicité, donc j'avais envie de le déchirer. Et mon sixième sens m'a dit, tu vas arrêter d'être bête, tu vas ouvrir l'enveloppe. Donc, bien sûr, je n'ai pas lu, je suis descendue, j'ai demandé à mon mari, je fais, regarde. Et en fait, c'était drôle parce que j'avais l'impression, pour ceux qui ont connu bonus, la lessive avec le petit cadeau à l'intérieur. Mm-hmm. J'avais vraiment l'impression d'être dans ça. Et mon mari, il voit le truc et il se dit, mais non, c'est pas possible. Donc moi, je m'amuse à appeler mon fils. Et mon fils, il me fait, mais non, mais maman, t'as pas le bac. J'étais chevalier de l'ordre des arts et des lettres. Des lettres, oublie, t'es dyslexique, maman. Et en fait, c'était très drôle parce qu'en fait, il y a toute ma vie qui repart. De quand j'étais là, d'un coup, je vois quand j'étais en primaire, toutes ces petites difficultés. Et que là, d'un coup, on me dit, voilà, ce que t'as créé est génial. Donc, on te récompense par rapport à ça. Mais c'est quelque chose que je ne demande pas.
Mais c'est le résultat de beaucoup d'années de travail, d'investissement.
Mais c'est ça qui est beau. Je pense que si je l'avais demandé et qu'on me l'accordait, j'aurais fait oui, bon, bah, c'est normal, je l'ai demandé. Là, ce sont des gens qui parlent en mon nom et qui décident et qui se disent, vas-y, il y a peut-être une possibilité.
En fait, on vous la propose et c'est vous qui acceptez ou pas, si je comprends bien.
Alors, chevalier, c'est vous l'êtes. Même si vous entendez des gens qui disent, ouais, moi, je veux pas, mais ça m'intéresse pas.
Vous l'êtes.
Vous l'êtes. Maintenant que tu ne le fasses pas reconnaître, c'est ton choix, mais tu l'es. Moi, je suis heureuse de représenter la France avec un simple bandeau et une simple chose qui dit que tu sois aveugle, que tu vois, ça revient au même. Ne te coupe pas de tes rêves, fais ce que tu as à faire. On m'a nommé chevalier parce que je fais des ateliers où c'est la mixité, le fameux métissage. C'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est, pour moi, c'est tellement important. On peut avoir des peurs de personnes ou pas, mais il y a un moment donné, on a tous peur de l'un et on a tous nos peurs. Et l'idée, c'est, bien, on met les peurs à l'intérieur de l'atelier et on verra bien ce que ça donne. Mais donnons-nous une chance et avançons ensemble. Et c'est tellement beau. Comme je dis toujours, dans mes ateliers, j'ai l'impression de prendre un spectacle tous les jours. Parce que les gens dansent et donnent, et dansent avec leur âme. Moi, j'adore aller voir les spectacles, mais j'oublie pas que je suis malvoyante. Donc, je vais me mettre devant et je vais écouter les corps danser. Et c'est ça qui me fait kiffer lorsque je vais
de
voir un spectacle.
Percevoir, en fait, autre chose.
Mais si je vois
en
la
fait,
danse
vous vous arrêtez
autrement.
Pas à la vue, oui.
Sinon, je vais être perdue, je vais puzzler pendant 2 heures, je vais être fatiguée, je vais rentrer à la maison, je vais dormir. Mais là, c'est entendre les corps, entendre un corps qui fatigue d'un coup... Et qui, hop, il est stimulé, il reprend. C'est ça, moi, qui m'anime et c'est ça que je trouve plaisant. Je ne vais pas m'inventer une vie en me disant, oui, mais je ne vois pas, c'est horrible, il n'y a rien qui est fait pour nous. Non, non, j'en ai rien à faire. Je vais trouver une solution. De nos jours, il y a énormément de choses qui sont faites. Maintenant, on peut aller voir des spectacles. Il y a des gens qui vont nous donner l'audio-description du spectacle. Moi, j'aime à moitié. J'aime avoir mon côté créatif, mon côté où j'entends quelque chose. Par exemple, je continue à aller au cinéma. J'adore aller au cinéma. C'est le seul endroit où je suis sage. Quand je vais au cinéma, moi, ce qui va me transcender, c'est le son. C'est ma compréhension du film et discuter avec les autres. Et en fait, je n'ai pas vu du tout le même film. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai vu mon film. Et c'est ça qui est rigolo. C'est qu'à un moment donné, c'est m'amuser avec ce qui... devrait me fâcher parce que j'en ai assez, j'arrive pas à comprendre.
Oui, mais parce que vous avez fait une force, en fait, c'est devenu une force, votre,
tout à fait.
Votre façon de voir, en fait. Vous en avez fait un atout, une force, et vous êtes déterminée en plus. Donc du coup, ça ne pouvait amener que des choses hors du commun vers vous.
Oui, mon vécu, je ne suis pas en train de dire à toute personne qui est porteur de handicap de « attention, on est des super one man girl, on est des superman, tout ça ». Non. Juste, qu'est-ce que toi, tu veux ? Moi, ma question, ça a été, Fabienne, tu veux quoi ? Qu'est-ce que tu veux dans ta vie ?
Alors moi, j'ai une question que je pose à toutes les mamans que j'enregistre. Qu'est-ce que vous aimeriez voir changer dans la société ?
Alors, moi, ce que j'aimerais voir changer dans la société, même si je ne vois pas, c'est que les gens s'aiment un peu plus. En fait, prennent soin plus des uns des autres. On est vraiment... Il y a eu un avant-Covid et un après-Covid. Mmh. Avant le Covid, j'ai eu l'impression qu'il y avait... Les gens commençaient à s'unir. Moi, on venait m'aider tout le temps. J'allais quelque part, on me disait « Non, mais c'est bon, on a vu une émission qui nous a parlé du handicap. » En fait, j'avais l'impression que les personnes porteurs de handicap s'intégraient dans la société. Ensuite, il y a eu le Covid. Et là, on a fait une marche arrière de 50 ans. Alors, quand je dis ça... Alors, on est en train de revenir.
Oui.
Mais...
On rame hein, quand même.
Mais on rame. Mais c'est pour ça qu'il y a un moment donné où oui, on rame. On a eu le Covid, ça a été quelque chose. Personne au monde n'avait vécu ce genre de choses. Mm. Personne. Il y a des gens qui se sont retrouvés chez eux, dans leur maison, à pu bouger, dans des petits appartements, dans des choses comme ça. Et là, à ciel ouvert, on était tous en prison. Avec sortie, il fallait montrer patte blanche, il fallait montrer plein de choses. Et les gens, ils étaient violents. Je me suis retrouvée à faire la queue pour faire les courses. Et des gens avec des phrases méprisantes. Et heureusement que j'ai le caractère. Et qu'il y avait mon fils, et je lui dis, tu vois, en temps de guerre, on aurait été fusillés. La petite dame, avait, la personne âgée et moi, on ne serait plus de ce monde parce que c'est n'importe quoi. L'incivilité, le civisme n'existe pas. Et au début, on a du mal à se dire que c'est vrai, mais c'est une réalité.
C'est ça que vous voudriez voir revivre, l'humain, revenir,
que l'humain,
renaître.
La renaissance, qu'à un moment donné, on ne soit pas tête penchée dans nos portables, sinon on va être trop d'aveugles. Les gens, ils ne mènent même pas dans leur tête qu'ils sont dans leur série. Ils sont en train de marcher, mais ils sont aussi aveugles que moi. Simplement, moi, j'ai l'habitude avec ma canne. Il y a eu des accidents de gens qui étaient tellement perchés dans leur truc. Mais je me dis, mais l'humain, quand est-ce qu'on reprend l'humain, quoi? Et voilà, moi,
c'est ça.
C'est cette naïveté que je voudrais réavoir. C'est important. Après, les revendications, oui, plus de je ne sais pas quoi. J'ai besoin de rien. J'ai juste besoin, à un moment donné, que je sente qu'on peut s'aimer, protéger notre jeunesse.
Très
notre
important.
Jeunesse, c'est notre futur. Hein. On a intérêt de bien les protéger, de bien les accompagner. C'est pas parce que mon enfant il va en sixième que ça y est, c'est un adulte. On l'accompagne jusqu'à la fin. On est des parents à plein temps et jusqu'au bout. Bien sûr, on va donner de la liberté à nos enfants, mais
pas
on est là.
Suite.
On est là.
Fabienne, on arrive à la fin de cet entretien. Pour suivre vos cours, où est-ce qu'on s'inscrit? Donc, on a bien compris, on a entendu tout à l'heure que c'était à Saint-Maur-des-Fossés. On va pouvoir vous suivre pendant les Jeux Olympiques au moment où la flamme va circuler. Mais si on veut prendre des cours de danse avec vous, où est-ce qu'on va? Comment on fait?
Très souvent, ce sont les associations ou les mairies. Parce que moi, en fait, j'ai une toute petite salle.
D'accord.
Donc, on est déjà bien nombreux. On peut m'appeler. Hein,
on peut vous faire venir dans un centre
tout à fait.
D'animation, un centre culturel,
exactement.
Une salle de danse.
Généralement,
une entreprise peut-être
pour... Bien sûr. mon grand bonheur, moi qui adore la mode, j'ai fait des ateliers chez Chanel.
Oh là là.
Voilà, tout est possible.
Oui.
En fait, j'aime bien dire Saint-Maur, c'est ma maison, c'est les adhérents que je connais beaucoup. Mmh. Et je leur fais faire plein d'expériences. Et ensuite, par exemple, là, je reviens de La Réunion. J'ai travaillé à La Réunion, j'ai fait des ateliers pour les droits des femmes. Là, je vais partir en Belgique. Mmh. Pareil, en fait, je pars partout. Je suis tout le temps en mouvement. Et au contraire, c'est génial de rencontrer des personnes dans d'autres lieux, dans leur univers. Moi, c'est ce que j'adore, j'affectionne ça.
Partout.
Partout, voilà, c'est les associations, bah, si vous voulez que je vienne, ou même vous pouvez en parler dans vos associations, et moi, avec plaisir, je viendrai vous présenter mon monde, et que c'est possible de danser les yeux fermés.
Comment on fait pour vous contacter? Est-ce que vous avez un compte Facebook, Instagram? Donnez-nous toutes les coordonnées,
alors,
on veut danser avec vous.
Ce qui est bien, c'est qu'on a inventé les réseaux, donc on va me retrouver sur
Facebook déjà.
Facebook, donc très simple. Fabienne Austin.
H-A-U-S-T-A-N-T.
Exactement. Donc là, vous me retrouvez à coup sûr. Sinon, danse les yeux fermés. En fait, je m'occupe des deux comptes, mais c'est vrai que j'arrive à être
plus active sur
plus
Facebook.
Active, exactement. Plus sur Facebook. Après, bien sûr, j'ai l'Insta. Insta. Bah, alors là, je suis hyper active. Je suis très originale, Fabienne Austin. Sur LinkedIn, Fabienne Austin. Et sur TikTok, Fabienne Austin.
Bon, parfait.
Bon, en fait, puis si vous vous intéressez, vous pouvez regarder, vous allez savoir, vous en saurez un peu plus.
Très bien. Fabienne, je vous remercie beaucoup pour cet enregistrement, ce moment de partage. Je voudrais aussi remercier l'Écuge, qui est rue Lafayette dans le 10e, qui nous a prêté ce studio d'enregistrement. Et si vous voulez vraiment en savoir plus sur Fabienne Austin, vraiment n'hésitez pas, découvrez-la sur les réseaux sociaux. Contactez-la et vous verrez peut-être que votre vie et que votre vue sera tout autre. À bientôt. Merci Fabienne.
Merci.